Eh bien, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Donc, on a eu là 2 journées de. On entame la 4e demi-journée de conférences autour de cette question de la façon dont on repense l'utilisation, la production des vêtements, notamment dans le sport. Ben, je vais vous laisser peut-être chacun déjà présenter en quelques mots votre initiative ou votre marque, votre entreprise. Et puis ensuite, je vous redonnerai la parole pour que. On entre dans le vif du sujet et que vous nous disiez voilà, comment vous placez dans cette chaîne de fabrication, à quelle étape finalement et comment vous y contribuez. Donc vous avez 2 micros devant et je te laisse la parole, Alexia Loupier, pour nous présenter 1083.
Donc, bonjour tout le monde, je me présente Alexia, je travaille chez 1083. 1083, marque de jeans. 1083 est né il y a 10 ans de la volonté d'une personne qui s'appelle Thomas Huriez, le fondateur, qui a été rejoint très rapidement par Grégoire Huriez, son frère, et dans la volonté en fait de relocaliser toutes les étapes de production du jean en France. Il faut savoir que dans les années 92-98, la dernière usine de jean français, la dernière usine française de jean a été délocalisée. C'était une usine Levi's à Lens. Et donc, depuis ces années-là, il n'y avait plus de jean, quasiment plus de jean fabriqués en France. Et l'idée de cet informaticien de base, c'était de relocaliser le vêtement le plus porté au monde. Parce que vous soyez de n'importe quelle origine, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel genre, de n'importe quel sexe, idée politique, idée religieuse, tout ce que vous voulez, tout le monde a au moins un jean dans sa garde-robe. Donc l'idée, et puis bien sûr, issu de l'industrie textile, le jean, un des plus polluants, un des plus gros consommateurs en eau, etc. Donc le pari, c'était effectivement de faire un jean éco-responsable et fait en France. Donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, et notamment sur les différentes initiatives en termes de recyclage.
Merci beaucoup. Alors, à côté de toi, on a Oscar Mondésir de Sporting Goods.
Bonjour à tous. Moi, Oscar Mondésir, j'ai 25 ans. Je suis parisien d'origine, mais marseillais d'adoption. De toute façon, avec mes initiales, j'étais obligé de supporter l'OM. Donc nous, chez Sporting Goods, qu'est-ce qu'on fait? On propose de donner une seconde chance à des articles de sport qui n'ont même pas vu le jour. Des articles de sport qui prennent la poussière dans des stocks, dans des clubs, dans des distributeurs, et on les remet à la vente, à disposition de particuliers sur une plateforme digitale qui s'appelle sportinggoods.com. Donc typiquement, on a commencé à travailler avec des clubs de sport qui en fait chaque saison se voient se rééquiper avec une collection, une marque différente. Donc là, typiquement, un club de Marseille qui était chez Adidas et qui est passé chez Nike. Typiquement, bah, tous les stocks qui n'ont pas été utilisés prennent la poussière. Donc là, l'idée vraiment de Sporting Goods, c'est ça, de donner une seconde chance à des articles de sport qui ne sont jamais sortis des vestiaires. Et aujourd'hui, on a déjà donné une seconde chance à plus de 500 articles de sport en l'espace de 5 mois. Donc voilà, on continue sur la ligne. Voilà.
Merci. Et à côté de toi, Tristan Vuillet pour FitCop.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Tristan Vuillet, du coup, cofondateur de la coopérative FitCop. Donc, FitCop, c'est une coopérative qui entend lutter contre le gaspillage industriel textile. Donc, c'est en amont de mes collègues de gauche, c'est-à-dire les rouleaux qui sont produits par les industriels et qui sont inutilisés, qui restent dormir dans les stocks et qui, du coup, n'attendent qu'à être utilisés parce qu'ils ont déjà été produits, ils ont déjà eu l'impact carbone dont on a parlé tout à l'heure, ils ont déjà eu l'impact eau dont on a également parlé. Et donc, nous, notre challenge, c'est de les mettre en avant et d'augmenter leur taux de valorisation. Donc, on a un showroom à Lyon-Neuf où on illustre tous les stocks qu'on arrive à récupérer. Et puis, on a aussi un site en ligne sur lequel on illustre tous ces stocks.
Merci. Alors, je vais te redonner la parole, Alexia, pour nous présenter un peu plus en détail 1083. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, mais c'est vrai que le jean, c'est non seulement, enfin, c'est un vêtement très symbolique qui traverse toutes les classes sociales, qui traverse toutes les modes aussi, puis qui est le vêtement mondialisé par excellence. Alors, nous, au collectif Éthique sur l'étiquette, on connaît bien ces sujets. Et donc 1083, donc c'est vraiment un produit de la région. On est à Romans. 1083, c'est, le nom aussi signifie quelque chose. On est à 1083 km au maximum entre les points de fabrication différents, c'est ça en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le projet, puis peut-être ben, les défis en fait aujourd'hui, parce que c'est aussi une marque qui a beaucoup beaucoup évolué.
En effet, pour revenir sur le nom, effectivement, je m'y étais pas arrêtée. 1083, c'est la distance qui sépare les deux points les plus éloignés de l'hexagone. Alors, je dis bien l'hexagone, on ne compte pas la Corse dedans. Donc, c'est Menton et jusqu'à Porspoder. Donc, Menton dans le sud-est et Porspoder dans le près de Brest, dans le nord. Enfin, pour moi, c'est le nord. Et ça fait 1083 km. Alors, vous pouvez vérifier. J'ai téléchargé une application l'autre jour pour vérifier moi-même. Effectivement, c'est vraiment la distance la plus longue qu'il existe en France. Et le but, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de relocaliser toutes ces étapes. Donc, ça va de la filature au tissage, en passant par la coupe, l'ennoblissement, la confection, la teinture, etc. Toutes ces étapes pour confectionner un jean, eh bien, il faut qu'elles soient à moins de 1083 ou 1083 km maximum de chez vous. Je dis on essaie, pourquoi ? Parce qu'il y a des étapes effectivement qui ne sont pas encore transposables en France, notamment, surtout à grande échelle, notamment la teinture. On a du mal effectivement à relocaliser la teinture, une de nos teintures, pas toutes. Et donc du coup, on a trouvé un lieu, c'est en Italie. Donc vous avez vu, même quand on a du mal et qu'on se heurte à des problématiques en France, on essaye de trouver du plus proche. Il faut savoir qu'un jean lambda de fast fashion, il parcourt en moyenne 65 000 km avant d'arriver chez vous. Ça fait trois fois le tour de la Terre. Nous, on a voulu réduire ça à 1083 km. Ça paraît fou, mais on y arrive. On est toujours dans l'amélioration, c'est-à-dire qu'on peut toujours mieux faire. Mais l'objectif, voilà, c'est de réduire au maximum tous ces impacts carbone qu'on peut avoir, notamment par le biais du transport. Le transport et les façons de produire. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de stock dormant. Donc 1083, on a la particularité aussi de tisser. On est tisseur, on a une usine de tissage dans les Vosges, à Rue-sur-Moselle, qui s'appelle Tissage de France. Et on a aussi un atelier de confection de nos jeans. À part ça, effectivement, on fonctionne avec d'autres ateliers de confection, puisque le but pour nous, c'est de travailler en perma-industrie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être en autarcie, on ne veut pas faire tout seul, parce que tout seul, ben, on ne va pas bien vite, et puis on n'ira pas très loin non plus. Donc le but, c'est de s'appuyer sur des savoir-faire que des gens ont déjà. On ne va pas réinventer la mayonnaise, on reprend effectivement ce qui existe déjà. On parlait effectivement tout à l'heure de Levi's, etc. Il y a des jeans qui ont existé. Nous, on a simplement regardé ce qui se faisait, et puis on a transposé, on a modifié, on a amélioré. Mais on part effectivement toujours, et si je peux vous le donner comme conseil, on part toujours d'une base déjà existante, ce qui nous aide à créer. Et il n'y a pas de honte à ça. Et on crée, on améliore, on évolue. 1083, que vous dire d'autre sur 1083 ? Aujourd'hui, on a effectivement des grands défis, notamment le recyclage. Alors souvent, 1083, on nous associe soit à une marque de recyclage, soit à une marque qui travaille avec des ateliers solidaires. En fait, non, c'est vraiment, on travaille avec un atelier solidaire, mais à part ça, c'est des ateliers les plus communs possibles. Et puis, on ne fait pas que du recyclage. On aimerait, mais pas que. Notre matière principale, c'est le coton. Alors nous, on se fournit en coton, principalement en Tanzanie, parce que alors là-bas, c'est du coton bio qu'on prend. Et en Tanzanie, il y a une irrigation naturelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de renforcer avec une irrigation artificielle les champs de coton, parce que le coton, ça bouffe de l'eau, à plus savoir qu'en faire. On aimerait avoir du coton français, mais cultiver du coton en France, on travaille avec quelques agriculteurs, on commence à y arriver, mais c'est à toute petite échelle, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais assez de coton, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que le jour où le coton poussera en France, c'est qu'on aura vraiment fait un gros, gros pas dans le réchauffement climatique, et ça, ce serait super inquiétant. Donc en fait, le coton, on le prend en Tanzanie ou Bénin, pour la majorité de nos stocks, et on réintroduit de nouvelles matières, non, c'est pas des nouvelles matières, c'est des anciennes matières qu'on se réapproprie, comme le lin, la laine, et là, on est en train de réfléchir aussi sur du chanvre. On a déjà des collègues, pour ne pas citer de nom, Le Gaulois, qui est aussi une marque de jeans, et qui travaille déjà pas mal le chanvre. Donc, effectivement, on s'appuie, en fait, sur des matières nobles et naturelles. Et tout ça, on a aussi une gamme qui s'appelle la gamme Infinie, qui est en polyester recyclé. Donc, c'est une gamme qui est recyclée, recyclable et qui est consignée. C'est-à-dire que nous, pareil, on n'a rien réinventé. En fait, on vend des jeans avec une consigne. Et quand le jean est usé, quand vous avez grossi, quand vous avez maigri, quand le jean ne vous plaît plus, tout simplement, vous nous le ramenez, on vous rend vos 20 euros de consigne. Ce n'est pas sous forme de bon d'achat, parce que du coup, ça incite à la consommation. C'est simplement 20 euros sonnant trébuchant, vous rend vos 20 euros qu'il y avait dans le prix initial. Mais ça reste du polyester. Donc l'idée, nous, ce qu'on voudrait à terme, et ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, on a sorti des prototypes, on ne l'a pas encore commercialisé, c'est de créer un jean qui s'appelle le jean Mon Coton, qui est fait à 85% de coton, de vieux jeans en fait, de coton recyclé. Donc 85% de coton recyclé et 15% de coton neuf, afin que la fibre soit assez longue pour être assez solide. Donc c'est un jean que j'aurais pu vous amener d'ailleurs aujourd'hui, qui est un peu bleu clair, gris, on dirait qu'il est délavé. Et en fait, pas du tout. C'est souvent cette bourre-là de coton qu'on utilise pour les dalles absorbantes là, de son, ou bien pour aussi les sièges de voiture. Cette bourre-là gris foncé, bah nous, elle devient gris clair à force d'être filée, d'être mélangée. Et donc, ça crée un jean dont la matière première est du coton recyclé. Et ça, c'est l'avenir. Parce que du coup, ça fait vraiment le cercle est fermé. On est vraiment en circuit fermé, pour le coup.
Quand on donc vous êtes made in France en fait, un vêtement made in France, donc c'est aussi que vous avez autour de vous organisé un écosystème, relancer des choses qui n'existaient plus ou renforcer des choses, des étapes existantes. Est-ce que ça a été facile de recréer ou de redynamiser une filière à ce niveau?
Alors au tout début, il y a 10 ans, quand Thomas Huriez, donc le fondateur, est parti avec cette idée folle, il a fait un peu le tour de la France et effectivement il s'est arrêté chez un tisseur dont je vous parlais tout à l'heure de Tissage de France, notre usine de tissage et notre atelier de confection. Mais il faut savoir qu'en 2018, avant 2018, ça s'appelait Valrupt. Et en 2018, Valrupt, cette entreprise, a eu des difficultés financières. C'est pour ça qu'on a décidé de la racheter. Mais il faut savoir que c'était notre premier fournisseur en fait de tissus de Nîmes. Il a écouté l'histoire de Thomas qui lui a dit « Voilà, moi je veux relocaliser, je veux faire du jean made in France, 100% français, je veux limiter au maximum les transports, etc. » Il a regardé ce grand bonhomme-là et il lui a dit « Écoute, ton idée, elle est plutôt séduisante. Par contre, du denim, ça fait très longtemps que moi j'en fais plus. Donc je vais régler 2-3 machines et puis je te fais un échantillon. » Alors les échantillons, c'est des mètres de tissu. Mais voilà, ça a été... Alors depuis, le tissu a bien changé puisqu'on avait des difficultés. Soit il s'usait trop vite, soit il rétrécissait, etc. Donc le tissu a bien évolué depuis 10 ans. Mais effectivement, ça a été notre premier fournisseur qui nous a fait confiance. Et bon, après tout ça, comme je vous disais, Thomas, il était informaticien. Après, il était devenu commerçant. Bref, il n'avait aucune notion dans la couture. Et du coup, il s'appuyait, ben, pareil, sur des savoir-faire et notamment un atelier qui s'appelle Création Anaïs et qui se trouve à Marseille. Parce que Marseille, ville de cœur, c'est effectivement Marseille. Marseille est connue en fait pour être spécialiste dans la confection du jean, entre autres, hein, parce que le jean a plusieurs origines, mais notamment à Marseille. Et du coup, deux frères, pareil, lui ont dit « Écoute, nous, on sait faire du jean, on en fait pour Caporal, on en fait pour Le Temps des Cerises, etc. Bon, on sait faire. Si tu veux, on tente le coup avec tes patrons. » Donc, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, Création Anaïs, eh ben, on est en train de réfléchir, pourquoi pas éventuellement se rapprocher encore un peu plus d'eux, etc. Faire quelque chose de plus grand, un atelier plus grand, les aider à grandir. Bref, c'est encore un de nos partenaires. Et qui fabrique encore tous les jours pour nous. Donc effectivement, c'est dur, c'est pas tous les jours simple. Des fois, on a des prestataires qui nous lâchent, d'autres qui ont des difficultés eux-mêmes à produire, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut être assez capé pour rebondir en fait dès qu'il y a une difficulté. Si on s'était arrêté à la première difficulté, le jean 83, il n'aurait pas évolué et je ne serais pas aujourd'hui en salopette devant vous. Je ne serais peut-être même pas devant vous d'ailleurs. Voilà, on a rebondi sur ces difficultés parce qu'effectivement, le produire en France, y a des difficultés. Et puis, il y a aussi l'histoire du coût. Moi, souvent, je fais visiter notre atelier à Romans-sur-Isère à des étudiants qui ne connaissent pas 1083. Et ce n'est pas une honte parce que 1083, déjà, on représente 0,02% du jean au monde. On représente la moitié des jeans fabriqués en France, mais c'est peanuts, c'est rien du tout. Et du coup, 1083, on ne connaît pas forcément. Et quand ils visitent l'atelier, etc., on leur explique, on leur montre. Et puis, je leur donne le coût. Un jean, chez nous, c'est en moyenne 120 euros. Et effectivement, ils me disent, mais c'est un frein pour nous parce qu'on n'a pas le budget, etc. C'est le prix d'un jean Levi's non soldé. Sauf que derrière, effectivement, nous, ce qu'on explique, on ne fait jamais de solde. Pas de promotion, pas de solde. Le coût, c'est le même toute l'année. Pas de Black Friday, rien du tout. Et notre doctrine, c'est d'acheter moins et de consommer moins. Alors vous allez me dire, mais eux, ils n'ont rien compris du tout. Ils vont boire le bouillon dans 3 secondes. L'entreprise va se casser la figure. Et en fait, non, ce n'est pas ça le but. C'est de fidéliser au maximum et de faire découvrir notre marque au maximum en fait, d'acheteurs, de clients. Mais pas forcément qu'un client achète 5 jeans dans l'année. S'il achète un jean tous les 5 ans, c'est top, quoi. Et nous, le but, c'est pour ça qu'on travaille sur la durabilité et la solidité de nos jeans. Et on s'est rendu compte que porter un message, comme je suis en train de le faire, ben, ça a du sens, mais c'est pas pour ça qu'il faut ressembler à un sac à patates, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup aussi le style en ce moment. Et le coût, ben, voilà, c'est le coût qu'il y a derrière de travailleurs sous le code du travail français, etc. Donc du coup, ça implique plein de choses, mais on essaye de rester raisonnable, de ne pas être une marque de luxe et d'être à la portée de tout le monde.
Et on a une vision complètement distordue aujourd'hui du véritable coût d'un tas de choses, mais c'est vrai que des questions évidemment de pouvoir d'achat, d'accès se posent, et c'est une vraie question pour vous, d'autant que vous couvrez une grande partie de la filière en fait pour la fabrication. Alors Oscar, on va passer à toi. Donc tu expliquais un peu bien que tu rentres un peu dans le détail, comment vous fonctionnez, donc d'où vient votre idée en fait, comment est-ce que vous fournissez, d'où viennent, est-ce que c'est déjà des vêtements, vous, c'est pas de la matière, c'est des vêtements, d'où est-ce qu'ils proviennent et comment vous vous organisez pour les remettre en vente?
Ouais, bah en fait, avant de créer Sporting Goods, j'ai travaillé en tout 4 ans dans le domaine du sport. Avant, en plus, je jouais au handball, donc j'ai toujours aimé le sport. et donc, en fait, quand je travaillais chez Adidas, bon, dans la boutique, comment ça fonctionne, bah, y a de nouveaux arrivages. Ensuite, bah, y a les remises, il y a les ventes privées, et ensuite il y a les soldes. Et en fait, il y a une linéaire qui existe depuis tellement longtemps dans ce genre de boutique qu'en fait, on ne pense pas à l'après-coup, à l'après-solde. Hein. Souvent, c'est des stocks qui sont renvoyés à l'autre bout du monde. C'est souvent beaucoup de déplacements pour pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment une des expériences qui m'a fait envie d'évoluer un peu dans toute ma partie professionnelle. Et j'ai bossé aussi dans le digital, sur une plateforme e-commerce, parce que j'adore le digital depuis très longtemps. Je prends le digital notamment pour faire émanciper, pour déployer toutes ces nouvelles circularités autour de l'économie. Et donc on a beaucoup travaillé sur la vente d'articles de sport en ligne, notamment tout ce qui est raquettes, donc c'était plutôt de l'équipement. Et là aussi, une fois, je me suis vraiment remis en question, notamment quand en fait, tout le traitement des raquettes, quand on avait des retours, des casses, etc., ça représentait 5 à 10% de nos ventes. Je travaillais du coup en direct avec les fournisseurs pour gérer ces retours. Et vraiment, une question que je me suis posée à un moment, mais en fait, vous en faites quoi de toutes ces raquettes que je vous renvoie cassées? Et donc voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de retraitement pour tous ces produits-là qui sont cassés. Il manque des filières de recyclage pour tous ces nouveaux produits. D'ailleurs, enfin, on parle de la loi AGEC, dont Isabelle en a parlé un petit peu, de toute cette filière ASL dans le sport qui est en train de se déployer. Mais voilà, ça fait bien longtemps que ces problématiques existent. Tant mieux que ça commence à émerger. Et donc voilà, c'est avec toutes ces expériences, en fait, je me suis vraiment remis en question et je voulais faire quelque chose qui avait plus de sens et d'impact. Notamment voilà, en repensant un peu la seconde vie, le recyclage des articles de sport. Donc j'ai voulu un petit peu tout faire d'un coup, et c'était très compliqué de vouloir à la fois faire du recyclage, du don, de la réparation, etc. Et donc j'ai lancé une première opération en fait, avec un club, parce que moi l'ADN du club je l'ai depuis très longtemps, et si on compte juste en termes d'acquisition de flux, il y a 60% de sportifs qui font du sport en club. Donc en fait, même si on aime les clubs ou quoi, c'est vraiment un gisement en fait vachement intéressant parce que dans les clubs, il y a de la pratique. Et si on vient vers les consommateurs, on aura plus tendance à essayer de déployer de nouveaux services. Et donc on a lancé le Trocathlon au SMUC. Donc c'était une expérience assez intéressante pour nous. Pour moi, j'étais tout seul au démarrage. Le SMUC, c'est un des plus grands clubs universitaires à Marseille, donc plus de 12 000 adhérents. Et on a lancé un Trocathlon. Donc en fait, les adhérents pouvaient venir déposer des articles de sport de seconde main qui pouvaient du coup être revendus à d'autres personnes. Donc c'était aussi un moyen de faire un peu une porte ouverte pour le club, pour qu'il puisse proposer un service d'articles de sport à petit prix pour des nouveaux adhérents et qui n'avaient pas forcément le budget de s'équiper. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'une des sections sportives nous a ramené 4 sacs de tenues de sport neuves, des jogging de grandes marques qui n'ont pas été utilisées. Et voilà, donc en fait, toutes ces connexions-là m'ont amené à entreprendre et à créer Sporting Goods. Donc Sporting Goods, c'est juste la contraction de Sporting Good, qui veut dire article de sport en anglais. On n'est pas allé très loin dans la réflexion. Mais voilà, aujourd'hui, c'est Sporting Goods, c'est comment on fonctionne. Du coup, en fait, on a vraiment une logique de collecte où on vient récupérer des invendus qui peuvent venir de clubs principalement. On a commencé à vendre des tenues de sport de clubs locaux comme Marseille Nord Handball, comme le FC Burel, des clubs qui pouvaient avoir aussi de temps en temps des produits personnalisés. Donc c'était un vrai challenge pour nous de réussir à vendre des logos qui n'étaient pas forcément très connus avec des sponsors, etc.
En fait, on a vraiment réalisé que les gens avaient besoin de se personnaliser, d'avoir des produits uniques. Aujourd'hui, on est assez uniforme dans nos tenues. Et l'idée de Sporting Goods, c'était aussi de permettre de se différencier à moindre coût sans avoir un impact supplémentaire sur l'environnement. Et donc, on a commencé à déstocker des clubs amateurs, locaux, de la région de Marseille. Et petit à petit, on a monté en grade. On a monté en grade avec certains clubs semi-pro et professionnels. Et aussi, on avait développé un modèle économique qui paraissait intéressant de déployer sur d'autres secteurs, notamment les distributeurs, les magasins. Donc aujourd'hui, on récupère à nos frais les stocks dans les clubs. Et ensuite, on fonctionne en dépôt-vente. Donc une fois que c'est vendu, on refacture une partie des ventes au club, entre 20 et 40% selon l'état des stocks. Et donc là, j'amène à la question suivante qui était comment on retraite, comment on trie. Alors c'est très très artisanal, même si on est une plateforme digitale. Aujourd'hui, tout ça se fait en interne. On n'a pas encore externalisé cette partie-là parce qu'on veut vraiment essayer d'apprendre au maximum de cette expérience-là pour optimiser au maximum nos process. Parce que les process dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est vraiment, si je peux donner un conseil, si vous avez des projets autour de l'entrepreneuriat ou tout simplement dans la création de vos parures, c'est comment vous procédez pour optimiser votre temps sur toute la chaîne de production, la chaîne de valeur. Et donc, nous, on a décidé de tout internaliser pour apprendre au maximum. Donc voilà, des fois, on a des produits qui n'ont pas de code barre. Donc, comment on traite en stock les produits sans code barre? Comment on traite les produits qui ont une tache mais qui sont encore neufs, qui ont une étiquette? Comment on stocke des produits qui n'ont pas de marque? Donc voilà, c'était vraiment tout ça, on traite au maximum. Ça, c'est vraiment un des plus gros boulots qu'on envisage un jour externaliser éventuellement avec une ESAT pour renforcer notre impact social. Mais et donc comment on vend? Dès qu'on vend sur une plateforme digitale, nous on travaille énormément sur le référencement naturel parce que c'est de notre précédente expérience qu'on a réalisé l'impact de comment être bien positionné sur les moteurs de recherche, pour n'en pas citer un. Et donc aujourd'hui, nous on a fait plus de 400 commandes, il me semble. Il faut que je regarde notre back-office, mais 400 commandes en 5 mois sans publicité. On a décidé de ne pas mettre de l'argent chez Google, chez Facebook Ads, etc. On a testé au début, mais ça n'avait pas d'impact pour ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le référencement naturel et aussi le réseau des clubs qui ont de très très grosses communautés. Et nous, nos next steps, c'est d'essayer de déployer nos services à de plus grande échelle. Aujourd'hui, on est très local, même si on a des clubs qui viennent partout en France. Et notre enjeu, ça va être de diversifier nos services, parce qu'aujourd'hui, on n'achète pas notre marchandise. Donc, il faut qu'on développe aussi des avantages à passer par nous plutôt qu'un simple déstocker. On assure la traçabilité, notamment en proposant une plateforme digitale unique où tous les produits qu'on récupère sont revendus dessus. Et aussi des services de compensation carbone. Donc nous, on calcule, on sait combien ça évite d'émissions de carbone de remettre sur le marché des produits qui ont déjà été fabriqués et qui prennent la poussière. Donc nous, on veut favoriser un peu. Nous, notre positionnement, c'est un peu le too good to go du sport, d'être la plateforme anti-gaspi, moins de gaspi et plus de transpi. Voilà.
Génial, j'adore le slogan. Est-ce que les personnes qui viennent sur le site, ils savent qu'ils viennent participer aussi à une démarche qui pour donner une seconde vie à des vêtements, ou ils viennent surtout rechercher, et pourquoi pas, c'est plutôt pour savoir comment les gens atterrissent sur ta plateforme, sur Sporting Goods. Est-ce qu'ils viennent participer à une démarche, tu penses, ou un peu les deux, ou est-ce que avant tout c'est bien parce qu'on a de vrais vêtements, un vrai équipement à un prix abordable?
C'est vrai que déjà quand on est sur une plateforme digitale, il faut savoir que dans le retail, dans le sport, c'est 80% de produits qui sont vendus en physique et 20% en digital. Donc le peu de ventes qu'on a faites par rapport au marché qu'il y a est très, très minime, voire ridicule. Ça, c'est une vraie question de se dire comment on va pouvoir démocratiser et comment on attire les utilisateurs sur notre plateforme. Donc on a beaucoup travaillé sur le référencement naturel, sur des positions de mots-clés très généralistes comme les articles de sport pas chers, parce que avant tout d'être écolo et presque bobo de temps en temps, on n'est pas cher, et ça c'est vachement important, c'est ce que les gens recherchent. Et derrière, c'est aussi comment on crée la communauté. Donc on est très nul sur les réseaux sociaux, d'ailleurs si vous voulez nous suivre, ça sera avec plaisir. Mais on a eu la chance de passer sur un reportage au journal télévisé d'M6, qui nous a permis de découler, faire plus de 150 commandes en une demi-journée. Et donc les gens ont pu vivre l'histoire de nos collectes dans les clubs, de notre process de mise en ligne, et même jusqu'à l'expérience client où ils sont venus filmer un acheteur de Sporting Goods à Paris. Donc ça, c'est cool. En plus, voilà, pour la petite histoire Paris-Marseille dans le foot, voilà, on a une revanche à prendre, donc on le fait comme ça. Et donc voilà, on apprend encore beaucoup sur nos acquisitions, sur nos personas. On sait qu'on rend service à beaucoup de parents d'enfants qui veulent acheter des joggings à moindre coût. Et aussi, on rend service à des personnes qui veulent démocratiser un style un peu comme dans la friperie, où on cherche des pièces uniques. Donc nous, on a des pièces plus limitées aussi que des stocks de grands clubs. Donc c'est aussi, nous, des arguments à mettre en place pour essayer de vendre un maximum.
Merci beaucoup. Donc plus de moins de gaspi, plus de transpi et avec du style, en gros. Ben Tristan, on va voilà, je voudrais aussi que tu puisses nous expliquer un peu plus comment vous fonctionnez à FitCop, dont vous êtes plutôt sur l'amont, sur la question du textile finalement. Ouais. Et puis dans un second temps, vous avez décidé donc de vous organiser en coopérative, et ça, c'est pas anodin non plus, il y a une vraie démarche, j'imagine, derrière. Donc je te laisse nous en dire plus.
Alors, pour reprendre pas la genèse, mais on va dire cette année-là, on a fait le constat auprès de 10 industriels de la région, donc notamment des tisseurs, hein, qui peuvent faire du denim et autres. On a fait le constat qu'ils avaient sur 14, plus de 360 000 mètres de textile qui dormaient. Donc 360 000 mètres, ça fait 360 km. On peut presque aller à Paris déjà, rien que comme ça. Et dans la région, il y a plus d'une centaine d'industriels qui travaillent sur le textile. Donc il y a fort à parier qu'il y ait plusieurs millions de mètres de textile qui dorment dans les entrepôts, rien que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on a fait ce constat-là et on leur a demandé quelles étaient les solutions actuelles. Donc il y en a qui envoient à l'export, il y en a qui détruisent, il y en a qui font des petites affaires avec des jeunes marques, des jeunes créateurs qui viennent les solliciter. Mais ils n'avaient pas de solution qui soit vraiment durable, pérenne, économiquement viable et surtout qui réponde à tous leurs enjeux. Et donc on a réfléchi avec eux à une solution, on les a réunis tous ensemble en leur proposant des ébauches de solutions. On a travaillé un peu avec des modèles, enfin, on aime beaucoup les post-it chez nous, voilà, on travaille beaucoup comme ça pour favoriser l'intelligence collective, en fait, tout simplement. Et on est arrivé à cette solution, c'est-à-dire un showroom physique où on pourrait exposer tout leur stock dormant et une place de marché digitale où les gens pourraient prendre les commandes et demander des envois d'échantillons. Donc, quand je dis les gens, c'est principalement des jeunes créateurs, des ateliers de confection. On a aussi les métiers du spectacle. Enfin, voilà, toutes les personnes qui sont en demande de textile peuvent en trouver potentiellement chez nous. Et donc, on a lancé cette expérimentation sur la solution qu'on avait co-construite avec les industriels. Ça fait maintenant 5 mois. On a revalorisé un peu plus de 1100 mètres de textile. Donc, c'est un petit résultat, mais c'est un résultat quand même. Ça commence à faire déjà de l'eau évitée et de l'impact CO2 évité. Et puis, on fait un bilan avec ces industriels-là pour s'améliorer déjà. Et après, voir comment on voit la suite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rentrer d'autres industriels. Donc là, on en rentre de nouveau sur des textiles techniques, des nouveaux aussi sur des mailles qui viennent du haut de gamme, et puis aussi quelques tisseurs. Voilà. Voilà à peu près la démarche, en tout cas collective, qu'on mène avec eux. Et puis sur la structuration en coopérative, aujourd'hui, on a encore une association, donc une association loi 1901, lucrativité limitée. Et l'objectif en 2023, c'est de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. Donc les initiatives, voilà, en SIC, les initiatives les plus connues, dont vous avez sans doute entendu parler, il y a Enercop, qui est un fournisseur alternatif d'énergie verte. Il y a Railcop aussi, dont on entend beaucoup parler, qui veut remettre une ligne de train entre Bordeaux et Lyon. Et donc, il y a beaucoup d'investissements citoyens dans ces coopératives. Et leur particularité, c'est des entreprises donc classiques, mais qui proposent aux parties prenantes de l'entreprise de devenir actionnaires. C'est-à-dire les fournisseurs de textiles, les clients, les partenaires utilisent la coopérative pour répondre à cette problématique de stock dormant pour les uns et sourcing pour les autres. Voilà. Voilà à peu près la particularité du modèle économique. Et dans le modèle coopératif, une personne égale une voix. Donc, indépendamment du montant qu'on met au capital, la voix vaut pareil pour tout le monde. Voilà.
Et là, l'idée pour vous, enfin, ou les prochaines étapes, ou c'est l'enjeu, c'est d'avoir de nouvelles marques, en fait, par exemple, qui viendraient acheter ces stocks, ou vous avez plutôt une question de tri, je sais pas, des tissus, quels sont les enjeux, là, en ce moment, pour faire le lien entre l'acheteur et le vendeur, finalement?
Ouais, bah, t'as pointé le bon en premier, c'est effectivement trouver des débouchés pour ces textiles-là. Il y a déjà de plus en plus de marques éco-responsables qui se montent avec une ADN d'upcycling, donc de ne pas vouloir recréer du neuf, utiliser l'existant, que ce soit sur des textiles, des produits finis, vêtements, ou même sur des rouleaux, comme nous, on commercialise. Donc l'enjeu, c'est de faire comprendre aux marques, même des marques qui sont conventionnelles parfois, ça c'est vraiment l'enjeu de l'année, de faire comprendre qu'il y a des textiles qui sont la plupart du temps neufs, parfois même labellisés, qui n'ont juste pas le bon coloris pour le client initial, mais qui n'attendent qu'à être utilisés. Nous, on a des stocks qui vont de 1 mètre à 7000 mètres de textiles, donc il y a quand même de quoi faire une grosse, grosse collection sur celui de 7000 mètres. Et donc voilà, il y a beaucoup de pédagogie à avoir, de chiffrage d'impact qu'on a encore trop peu fait maintenant, en tout cas avec des organismes comme l'ADEME ou autre organisme peut-être indépendant, pour faire comprendre à ces acteurs de la mode que utiliser des stocks qui existent déjà, ça a vraiment une réduction de leur impact social, environnemental. C'est même mieux pour nous, enfin après voilà, ça n'engage que moi, mais c'est même mieux que d'utiliser de la fibre recyclée ou d'utiliser du coton bio. Bien que il faut que ces filières se développent aussi, parce que les stocks dormants, le but à un moment, c'est qu'il n'y en ait plus, c'est qu'on ait réussi à remonter à la source du problème, de sorte à ce que les industriels n'en créent plus. Et donc, il faut aussi développer des filières lin, des filières chanvre, des filières biologiques, pour reproduire les textiles après 2100, peut-être. Voilà.
Bon, merci beaucoup. Et donc, vos deux initiatives se sont montées très récemment, en fait.
On a fêté nos 1 an, là, il y a quelques semaines, et on a commencé à commercialiser en juin.
Oui, c'est tout récent. Et Sporting Goods?
Alors moi, j'ai créé la société en janvier 2022. Je suis allé chercher quelques subventions auprès de la BPI, notamment pour développer tout ce qui est algorithmique de CO2 évité. Et un ami, en fait, a rejoint la société en mars, et on a lancé la plateforme en juin. Donc ça fait 5 mois d'opérationnel. Et ça fait bientôt 1 an d'existence.
Tout neuf, mais déjà bien, bien engagé.
Et nous, notre structure est structure SAS. Donc, ça a été un choix de ma part. Je n'ai pas voulu créer une association, parce que je pense que c'est en créant des initiatives comme ça qu'on peut montrer des modèles économiques qui sont viables et circulaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le domaine de la mode, principalement, textile plus largement, de manière plus large, pardon, on a beaucoup de sociétés anonymes, SA, et si on est dans un modèle associatif, je trouve que il manque cet aspect économique qui est quand même le nerf de la guerre, et que si on ne monte pas des nouveaux modèles, je ne pense pas qu'on avancera, en fait.
On montre une alternative économique aussi, ouais, au modèle dominant. Eh bien, merci beaucoup. On a pas mal de temps maintenant pour écouter vos questions à l'une ou l'autre de ces trois entreprises, coopératives, associations en devenir. Voilà.
Moi, j'ai une première question pour toi. Ah. Est-ce que tu vends des jeans à plus de 1083 km du coup, quand tu vas?
Ah, est-ce qu'on exporte?
Non, est-ce que vous expédiez plus loin que la France? Est-ce que vous avez d'autres marchés que la France?
Alors, depuis un mois, on a limité, parce que justement, il n'y avait pas de sens. Donc, on a limité, en fait, nos exports aux pays limitrophes, enfin, ceux vraiment qui touchent la France. Donc, effectivement, le marché se réduit. Ouais. Bah, on s'est dit, tant qu'à faire, avoir cette logique-là, autant qu'on soit clean jusqu'au bout. Et comme chez nous aussi, le mobilier de bureau, les étagères où on pose nos jeans, etc., tout ça, c'est fait localement. Parce qu'on veut vraiment que la démarche, on la transpire, en fait. Donc voilà. Donc non, on n'exporte que aux pays limitrophes. Et pour revenir, effectivement, sur les stocks dormants, moi, je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre et une vraie question. Nous on fonctionne beaucoup à la précommande pour éviter justement les stocks dormants. Ça fait déjà des avances de trésor aussi pour l'entreprise, etc., mais surtout comme ça, ce qu'ils n'ont pas, on le garde pas, quoi. Donc nous on est toujours en afflux tendu.
C'est un peu le modèle qu'a initié Asphalt il y a quelques temps.
Ouais.
Et comme quoi c'est possible de revenir un peu à l'ancien temps, parce que c'était comme ça avant, hein, on demandait ce qu'on voulait et après il y a la commande qui était préparée. Et je trouve que c'est là où c'est important du coup le marketing, que il faut savoir que toutes ces grandes marques quand même font des économies d'échelle dans le domaine du sport, font des économies d'échelle assez intéressantes, et une partie se repose essentiellement sur le marketing. Donc c'est important de faire émerger des entreprises, des projets avec un potentiel marketing intéressant comme ce qu'a fait Asphalt, ce qui leur a permis aujourd'hui de vraiment d'exploser sur le marché en France, quoi.
Effectivement, puis on se rend compte que finalement les gens, quand tu leur expliques, quand tu les laisses pas dans le vide comme ça, eh ben, l'attente, ils la comprennent, ils la mesurent, ils la comprennent. Et pour revenir à Asphalt, personnellement, j'ai acheté une paire de chaussures chez Asphalt que je n'aurai qu'en janvier. mais ça donne de la valeur aussi au produit. Et on n'est plus sur du périssable, du consommable, du truc où on jette, où on oublie et où on laisse dans un coin. On sait qu'on y investit du temps, de l'argent. Il y a une démarche personnelle. Et je trouve que du coup, le vêtement, quel qu'il soit, prend beaucoup plus de valeur affective.
Je suis d'accord. Je rebondis encore une fois. À propos de à propos de l'achat, c'est vrai que quand nous on se confronte à toute la force digitale de grands groupes qui proposent des retours gratuits, des services après-vente énormes, et c'est vrai que ça a des coûts quand même pour nous, une petite entreprise, les retours c'est des choses qui coûtent, et en fait c'est pour ça que le marketing est important, et de faire quelque chose qui est durable dans le temps. Nous c'est pas les produits qui sont durables, parce que c'est vrai que c'est quand même des produits qui ont déjà acheminé pas mal de kilomètres et de frontières, mais c'est sur le marketing sur quoi on essaie de le rendre durable. Aujourd'hui on a moins d'1% de taux de retour, parce que c'est sur l'affection. Bon, après on a que 400 commandes, donc, mais c'est important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui si on a un marketing qui est durable en plus des produits, on va pouvoir rentrer dans l'ADN des consommateurs.
Marketing durable, c'est-à-dire?
C'est-à-dire de prôner quelque chose de plus large qu'un simple produit.
Donc dans les messages, d'avoir des messages qui... ouais. Et puis, c'est vrai, sur la question de l'attente, enfin, ça dit aussi tout ce dont on a besoin et tout ce qu'il y a derrière la fabrication. Enfin, c'est-à-dire que tisser, confectionner, tout ça prend effectivement du temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Allez-y.
Les habits, du coup, que vous avez pour Adidas et tout, on vous les donne ou c'est comment?
On travaille en dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on récupère nos frais et ensuite on refacture une partie des ventes, donc 20 à 40% à celui qui nous a donné la marchandise. Et en fait, on a fait évoluer notre modèle économique. Avant, on était un peu comme une marketplace, on récupérait 10% de la transaction, un peu comme ce qu'on peut voir sur Vinted, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème n'était pas vraiment sur la rémunération, mais sur le service qu'on proposait, notamment à des distributeurs, notamment à des clubs, était en fait plutôt orienté sur l'espace, le fait de débarrasser. Aujourd'hui, notamment dans le domaine chez les fournisseurs, les magasins, le coût de stockage, c'est quelque chose qui est pris en compte dans leur bilan. Et en fait, un produit que tu achètes à un certain montant en volume, il y a un moment où le coût de stockage en fait dépasse le coût de revient du produit. Donc en fait, c'est plus avantageux de s'en débarrasser, voire, c'est pas le cas de tout le monde, mais d'incinérer, parce qu'en fait, ça coûte trop cher à stocker. Donc en fait, c'est là où nous, on a fait évoluer notre modèle, parce que la première des choses, c'était de débarrasser pour sauver un petit peu le produit. Et le dépôt-vente, ça nous permet aussi de ne pas acheter la marchandise quand on la réceptionne et de refacturer une fois que c'est vendu. Donc en fait, ça rentre dans une logique où nous, on met nos efforts de communication, de marketing pour vendre les produits que nous avons et pas pour les acheter. Et juste en rebondissant, du coup, le fait d'acheter les produits, ça casse la relation qu'on peut avoir avec nos partenaires. Le fait de récupérer nos frais, mais de ne pas payer nos partenaires, ça permet de les garder attentifs un peu sur ce que va devenir des produits, et donc de créer cet échange avec nos fournisseurs pour participer ensemble à réduire cet impact et s'occuper de traiter tous ces articles de sport.
Mais du coup, c'est ce qu'il y a en trop, ou c'est par exemple quand il y a des vêtements qui sont abîmés ou qui ont des taches, comme vous aviez dit, du coup, vous les récupérez, est-ce que vous les améliorez ou vous les laissez comme ça et vous les...
C'est un peu pour ça que je suis là aussi. C'est pour venir un peu à l'écoute, de voir ce qui se fait dans tout ce qui est l'upcycling. Parce que dans la logique des choses, moi, quand j'ai créé Sporting Goods, au début, c'était pour reconditionner, réparer des articles de sport. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en amont qui était le gaspillage. Donc un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, un jour, si on arrête l'activité de déstockage, c'est parce qu'on aura tout déstocké, et tant mieux. Mais voilà, après, il y a bien sûr des sujets sur la seconde vie des produits, comment on peut reconditionner des articles de sport, notamment. Nous, on se confronte tous les jours à des clubs de sport qui nous disent « Vous récupérez les crampons des gamins ?» parce que à chaque fin d'année, on nous donne des crampons en bon état, mais on ne sait pas les traiter. Donc en fait, tous les produits de seconde main que nous, on récupère pour le moment, c'est pour débarrasser les clubs quand on sait qu'on récupère du neuf. Et pour le moment, tous ces produits-là, on les met de côté. Pour répondre vraiment à ta question, on les met de côté en espérant trouver des débouchés plus attractif que simplement le broyage et le recyclage. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de recyclage, on parle beaucoup de recyclage de nos jours, mais c'est important de savoir qu'il y a des alternatives plus éco-responsables en amont, notamment l'upcycling, la transformation, la réparation. Et donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on stocke ces pièces, on en donne des fois à des boutiques solidaires, notamment avec une recyclerie qu'on a déjà fait. Mais l'idée, c'est de trouver des modèles économiques intéressants, notamment aussi pour cette transformation-là de produits.
Je me demandais, par rapport à vos clients, est-ce que vous devez faire une démarche de pédagogie en amont vraiment importante par rapport à l'upcycling, ou est-ce que c'est déjà une cible qui est plus ou moins éduquée à toutes ces questions-là
tout le monde ? L'upcycling, nous, on n'en fait pas encore, mais on a un vrai devoir de sensibilisation par rapport aux invendus, le fait de dire que voilà, c'est pas la dernière collection, c'est pas le bon logo, c'est peut-être pas la marque que tu préfères, mais c'est peut-être la couleur que tu peux porter, la qualité du produit, la technicité. Nous, on veut un peu ralentir sur tout ce qui est éphémère en mettant en avant des produits qui ont potentiellement les anciens sponsors d'un club. Donc on est un peu dans une logique d'upcycling parce qu'on essaie de remettre au goût du jour certains produits, mais par contre sur tout ce qui est upcycling, on n'est pas encore parti sur ces communications-là, parce que quand on est une petite structure, il faut centrer nos communications. Donc nous, on centre nos communications sur tout ce qui est neuf, pas cher, attractif. Mais je vois vraiment l'importance de la sensibilisation. Aujourd'hui, nous, on a développé cet indicateur carbone qu'on va bientôt retranscrire sur notre plateforme. C'est-à-dire que chaque acheteur qui va pouvoir passer commande va pouvoir savoir combien d'émissions de carbone ils évitent en transitant sur Sporting Goods. Et on pense que la sensibilisation est un des leviers pour une économie plus circulaire, mais que ce n'est pas la seule. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une économie capitaliste, et il faut l'admettre, même si elle va évoluer dans une économie circulaire, elle sera toujours capitaliste, il faut qu'il y ait des intérêts, et même pour les acheteurs. Parce que capitaliste dit aussi acheteur qui veut le meilleur prix, le meilleur produit. Et donc c'est aussi un des leviers pour vendre et pour sensibiliser à la fois.
Du coup, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation. Nous, on a grandi avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui correspond complètement à l'âge de notre cible. Et du coup, on se développe, bien sûr. On s'est développé sur les autres, etc. Mais on se rend compte que toutes nos sensibilisations... Compliqué, cette phrase à dire. Enfin, dès qu'il faut qu'on veut exprimer quelque chose, communiquer sur quelque chose, ou présenter, ou inciter à... Ça marche effectivement via des posts réguliers, etc. On relance, on réitère, etc. C'est sans fin. C'est sans fin parce que les gens changent, on a de nouveaux abonnés, etc. Et c'est sans fin, on répète beaucoup. Et puis effectivement, les gens sont déjà convaincus. Et ceux qui ne le sont qu'à moitié, justement, il y a ce travail effectivement autour de tout ce qui est recyclage, consommer moins, consommer plus durable, et ainsi de suite, éviter le surachat, éviter la surconsommation. Mais c'est tous les jours, en fait, effectivement. Quelle que soit l'action, nous, on propose de récupérer des jeans 1083 pour les revendre en boutique, etc. Tout ça, c'est effectivement de la communication en permanence.
Les clients qui viennent vers vous viennent principalement parce qu'ils savent déjà que vous êtes une marque made in France et que vous avez que vous proposez parallèlement du recyclage, du réemploi, etc.
Alors il y a deux choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a effectivement les gens qui savent qu'on fait du made in France et qu'on fait des jeans propres. Là, on a sorti d'ailleurs des délavés, mais on a mis du temps à les sortir parce qu'on ne voulait pas justement que ce soit, que ce soit consommateur d'eau à outrance, etc. On voulait des façons de faire propres, des techniques propres et respectueuses de l'environnement. Donc effectivement, les gens viennent pour ça, d'une part, puisqu'on est connu pour être « made in France » et éco-responsable. Et puis, il y a ceux qui viennent, qui découvrent la marque parce qu'ils en ont entendu parler. Donc, ils voient grosso modo la nébuleuse là, du truc et ils viennent vérifier effectivement si c'est vrai, etc. Mais effectivement, les gens viennent plus souvent par le bouche à oreille ou parce que, comme tu disais, les médias. C'est impressionnant la force des médias. Nous, le site internet, il explose à chaque fois que on a un reportage sur, dans le journal de TF1 ou sur M6 ou quoi que ce soit. Ça nous fait saturer le site internet, c'est de la folie. Mais effectivement, je pense que les médias font partie de... Et ils font partie de cet apprentissage et puis ce passage d'infos, en fait, effectivement. Ouais.
Tristan, tu voulais aussi prendre la parole.
Oui, bah rapidement, parce que nous, c'est un peu particulier vu qu'on vend à des professionnels. Donc, les gens qui viennent acheter des textiles sont des entreprises, donc soit des entrepreneurs engagés. Donc là, c'est-à-dire tout le travail de sensibilisation a déjà été fait en amont et c'est comme ça qu'on les reconnaît. On n'a pas besoin de leur expliquer que c'est de l'impact CO2 en moins ou de l'eau ou des pesticides en moins. Ils le savent déjà. Par contre, on a un rôle du coup pour sensibiliser les autres et là, il n'y a que les critères d'impact puisque la plupart des entreprises ne sont pas vraiment engagées, on les reconnaît assez vite quand même. Elles vont vous demander, mais en fait, ça m'épargne combien de CO2 enfin, elles vont vouloir avoir des éléments de communication sur, en fait, si je viens acheter le textile chez toi, à quoi ça sert réellement quoi. Et donc, on doit faire ce travail-là aussi. Mais on doit aussi, comme tu disais, avec la mode, c'est-à-dire que le jean, les gens ils vont venir l'acheter parce qu'ils l'aiment bien, pas forcément parce qu'il est éco-responsable. Et nous aussi, on a cet enjeu-là, c'est que les textiles qu'on propose, ils doivent d'abord être qualitatifs parce qu'on va toucher tous les gens qui veulent juste acheter du textile spécifique ou du textile pas cher aussi. Et donc, on doit pouvoir les toucher sans les sensibiliser. Mais on le fera un peu en avançant avec eux, j'espère.
Bon, c'est l'éternel questionnement, en fait. Hein. Est-ce qu'on vient, parce que d'abord pour la démarche, ou est-ce qu'on vient avant tout pour le style ou aussi pour l'utilité et que c'est un moyen de faire passer des messages? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond.
Moi? alors pour les chutes, effectivement, donc on travaille. Alors déjà, on travaille avec deux, en plus de nous, mais avec deux entreprises pour la coupe. Tekin à Bobigny et VTD à Romans-sur-Isère. Donc Tekin a développé en fait des techniques qui minimisent au maximum la chute. Donc quand on parle de chute, ça va être des petits chrognonieux entre la poche et l'entrejambe, etc. On essaye de... ils essaient au maximum de rentabiliser en fait les coupes sur le tissu. Après, nous, on a des fins de rouleau, des chutes... du second choix en tissu dans lesquels on peut pas faire de jeans parce qu'on peut pas les vendre comme ça. Donc ça, c'est on a des petits stocks effectivement de on va appeler ça des chutes, des fins de série, et ça on les revend à prix tout doux. Donc il y a beaucoup de marques en fait, ouais, à prix tout doux. Donc du coup il y a beaucoup de marques qui nous les demandent, des marques qui font déjà qui ne font que dans des fins de rouleaux, des chutes, etc., qui ne veulent que ça. Ou bien souvent aussi il y a des écoles qui nous les demandent, donc là pour le coup on fait effectivement des dons à des écoles pour des tests, etc. Après quand je vous parle de fins de rouleaux, c'est quelques mètres quand même quoi. Oui, ouais. Et du coup c'est pour ça que au même titre que nos stocks, nous, on a très peu en fait de stocks dormants. On en a, hein. On en a sous la table de coupe, etc. Mais c'est des trucs qui nous sont demandés régulièrement. Et on est même obligé de refuser parfois parce que c'est déjà demandé par X ou Y et on les prend par ordre chronologique d'arrivée, les demandes.
D'autres questions?
Est-ce que vous pouvez répéter les trois noms d'entreprise, s'il vous plaît?
Oui, alors on a 1083... pour le Jean Made in France, Sporting Goods pour la plateforme d'articles de sport d'invendus, et FitCop.
En fait, je voulais rebondir sur un sujet, la seconde main, etc., notamment avec les modèles économiques vintage, etc., qui sont arrivés en masse
sur le continent et sur l'Hexagone. Je suis tombé sur un post LinkedIn hier où en fait on blâmait Vinted de son existence, notamment pour ses travers capitalistes, soi-disant, comme voilà, qu'il y a de moins en moins de dons, que les gens achètent du coup beaucoup en seconde main, que en fait du coup les gens qui vendent sur seconde main achètent plus en neuf. Et il y avait une critique sur Vinted comme quoi en fait c'est pas si écologiste que ça. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à séparer entre des services comme des plateformes et des lois et des réglementations que peut être amené à prendre l'État, enfin à mettre des mesures en place pour créer des interdictions, des limites, notamment sur les imports de fast fashion en Europe, etc., qui auraient un vrai impact sur tout ça, plutôt que de pointer le doigt un peu sur toutes ces plateformes qui offrent des services entre particuliers sur les secondes mains, etc. Donc je ne sais pas si ça peut être un sujet où on peut en discuter, mais moi c'est vraiment, ça m'a marqué de voir comme quoi, en effet, bien sûr, tous les services à un moment peuvent avoir un peu un débord, une phase cachée un peu qui est amplifiée par nos façons de consommer, notre éducation, etc. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait certains revendeurs Vinted qui récupéraient des pièces au Secours Populaire pour les revendre sur la plateforme. Bien sûr, il y a toujours des débords, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation à mettre en place autour de tout ça et de lois potentiellement.
Est-ce que l'un de vous veut réagir? Puis après, je me permettrai, comme je l'ai fait hier, de sortir de mon rôle de modératrice, parce que je pense que c'est des sujets vraiment importants qu'on traite un petit peu, nous, dans notre organisation. Mais bon, je te laisse la parole.
C'est simplement pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, au niveau des lois. Je pense qu'il y a des lois, effectivement, auxquelles réfléchir. Et il y a une association qui s'appelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle En Mode Climat, et qui, pour le coup, lutte... parle de cette fameuse primo vice, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est face aux grandes enseignes, effectivement, qui développent, etc., et qui continuent sans limite, finalement, de développement économique, etc. Et en parallèle de cet impact environnemental, de l'impact carbone, etc., il y aurait une corrélation, effectivement, à faire entre le produire de plus en plus, etc., avec cet impact, qu'est-ce que ça donne, etc., et poser des sortes de taxes. Et en mode climat, je vous le fais très court, mais en mode climat, si ça vous intéresse... si ça vous intéresse, ils ont un site internet, et tout est expliqué, et c'est vraiment un mouvement militant au sein de la filière textile. Voilà.
Et donc, vous faites partie aussi à FitCop ? Oui.
J'ai pas spécialement quelque chose à dire, donc je te laisse.
C'est intéressant de savoir
sortir de ton rôle de modératrice. Non, après, mon avis sur Vinted, il n'est pas forcément très intéressant. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une solution, il y a toujours des débords. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Même nous, on se pose les questions de est-ce que si on donne des solutions viables aux industriels pour avoir des débouchés pour leur stock dormant, est-ce que vraiment, à un moment, ils vont réduire leur production de stock dormant? Et c'est à nous aussi de travailler en ayant conscience de ça. Je ne pense pas que Vinted, quand ils se sont créés, se sont dit qu'il allait avoir tant de débords. Voilà. À toi.
Oui, sur Vinted, je pense que... alors, on a fait partie, nous, des organisations qui avons été questionnées par les médias. Donc, l'ONG Défense des droits des travailleurs. Je pense qu'il y a vraiment une question derrière de modèle et d'intention. C'est-à-dire que Vinted ne s'est pas créé dans une optique de recyclage, de lutte contre le gaspillage et la surproduction. Donc, ce n'est pas un mal, mais il se trouve que ce n'est pas l'intention de départ. J'ai envie de dire, contrairement à vos initiatives qui s'inscrivent dans une démarche de limitation des déchets, de repenser la production, de repenser la fin de vie. Et c'est vrai qu'ils ont été dépassés. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi, les questions aujourd'hui dans l'accélération. C'est comment on arrive à... s'opposer au modèle de la fast fashion, en fait, qui est un modèle qui a un effet d'entraînement très fort et qu'on retrouve aussi dans la seconde main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes de surconsommation, de friperie, de seconde main, alors qu'au départ, la bonne chose à faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de la matière, neuve en tout cas, parce qu'on a un surplus de matière. Et Vinted a fait partie, mais comme d'autres, des acteurs qui ont accéléré en fait cette surconsommation, parce qu'il faut renouveler les stocks, et on va renouveler aussi des stocks en friperie, mais de fast fashion. Donc je pense que les limites, elles venaient de là. Et sur la réglementation, moi, je ne peux être que d'accord, c'est notre cœur de sujet en fait. C'est comment on fait. C'est vrai que c'est très intéressant ce que fait En Mode Climat, qui est de dire aujourd'hui la réglementation est favorable aux grandes enseignes de fast fashion, elle ne rend pas ces modèles assez coûteux de détruire l'environnement, d'exploiter la main-d'œuvre, etc., et devrait favoriser, y compris par des biais économiques, les initiatives qui visent à avoir d'autres modèles de production vers des choses plus socialement justes et environnementalement responsables. Je pense que c'est le sujet le plus important aujourd'hui, c'est comment on réglemente, quoi. Alors, il y a une question ici. Oui, vas-y.
Au final, ce qui est le plus écologique, c'est pas du coup Vinted ou ce que vous faites plutôt, parce que du coup Vinted, ça a déjà été, enfin c'est des vêtements qui ont déjà été portés et qui ont été mis en vente. Donc ce qui est mieux, c'est plutôt ça ou c'est plutôt quelque chose que vous récupérez dans les magasins qui sont déjà neufs mais qui sont déjà usés, on va dire. Enfin.
C'est quoi ton avis, toi? C'est quoi?
En vrai, je sais pas, parce que moi, je suis très friperie, je suis très seconde main. Du coup, là, ce que vous dites, je me dis, enfin, du coup, moi, j'ai regardé votre site et j'ai regardé après Vinted. Je compare tout le temps. Et j'ai vu justement que c'était moins cher. Je dis, bon, c'est quand même moins cher Vinted. Mais du coup, je sais pas, en fait. Enfin, là, j'ai l'impression que vous dites que ça fait encore plus polluer Vinted. Mais moi, je trouvais ça bien parce que justement, c'était un vêtement que la personne n'avait plus. Et que du coup, le fait qu'elle le revende, ça lui donne une autre vie, etc., etc.
En fait, je pense que c'est l'essence du projet Vinted, c'était ça. De dire, ok, on a tous des vêtements qu'on n'utilise plus, donnons-leur une seconde vie. Après, là, de quoi on discute, c'est sur la partie un peu cannibalisme du service qui, en fait, du coup, de toute façon, j'achète et au pire, si ça ne me va pas, je le revendrai sur Vinted. En fait, c'est tout l'impact d'après qui pollue, je pense. Mais après, il n'y a pas de recette magique. Nous, on s'était dit, au démarrage, nous, on voulait lancer vraiment la seconde main en priorité. C'est des actions qu'on voudrait mettre en place plus tard, parce qu'on a le gisement qui vient des clubs ou des adhérents des clubs. Typiquement, avec la première opération qu'on avait fait avant de créer la boîte, de faire un troc d'articles de sport de seconde vie, de seconde main. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui nous revenaient avec des produits neufs. Et donc, je me suis dit, dans la logique des choses, il était plus intéressant de s'occuper déjà du problème de la surproduction avant de s'occuper du problème de la seconde vie. C'est un choix que j'ai pris personnellement parce que je me dis que en remettant sur le circuit des produits qui pourraient avoir les mêmes caractéristiques qu'un produit neuf qu'on achète en grande distribution, on pouvait avoir un vrai impact sur toute la chaîne de production. Pourquoi? Parce que si on remet en vente des produits neufs, on va toucher une clientèle qui veut acheter des produits neufs. Les gens de Vinted, aujourd'hui, on ne les touche pas, ils veulent acheter la seconde main, c'est génial. Même moi, cette veste et ces chaussures viennent de Vinted, surtout moins cher. Mais c'est de se dire, voilà, commençons par ce qu'on peut faire au démarrage. On est une petite équipe. Ce qui est plus simple, c'est toucher des lots d'un vendu et de les remettre sur le circuit. Mais tu prêches un convaincu, moi j'ai aussi envie de pouvoir offrir une seconde vie, une troisième vie à des produits qui ont les qualités et qui méritent de transpirer encore une nouvelle fois.
Mais donc au final, les friperies et Vinted par exemple, ça revient au même?
Alors, je peux te donner un exemple d'un ami, peut-être que vous connaissez, Maxime de Crush On. C'est une marketplace de un peu friperie et qui favorise en fait des produits... Il n'y a aucun produit de fast fashion sur cette marketplace. C'est-à-dire que c'est que des produits de grandes marques ou de plus petites marques, mais qui n'ont pas cet aspect fast fashion. Donc c'est un peu le Vinted de l'éthique, de la seconde main. Voilà. Donc en fait, je pense après, il y a des alternatives. Et c'est aussi à nous, entrepreneurs, de mettre à disposition ces initiatives pour qu'elles puissent être connues au regard de plus de personnes. Mais voilà, si j'avais un conseil, moi, en tant que... Enfin, par rapport à l'expérience que j'ai sur le terrain, c'est en fait même plus forcément acheter de seconde main, mais acheter moins tout simplement. Et c'est un modèle un peu antinomique avec le modèle capitaliste. Donc c'est un vrai sujet, hein, notamment avec tout le marketing. Et j'aime beaucoup parler, désolé. Mais je vais continuer sur un dernier sujet, c'est dans le sport. Aujourd'hui, pourquoi les clubs amateurs, pourquoi il y a beaucoup d'athlètes qui émergent, c'est grâce au sponsoring. Et en fait, le sponsoring, ça repose sur quoi? Ça repose sur les marges que sont faites par des grands groupes, parce que c'est des produits qui ne sont pas forcément durables, mais qui ne coûtent pas cher à la production. Et donc, il y a des gros budgets pour sponsoriser des clubs, soutenir des clubs amateurs, des sportifs, etc. Et donc en fait, ça va un peu à l'encontre de ce qui se passe et des enjeux du monde actuel, qui est de repenser la production plus durable, comme ce que vous faites avec les jeans, etc. Et du coup, tout se pose la question du sponsoring et des financements dans tout le sport. Donc il y a vraiment plein de sujets sur lesquels on pourrait débattre de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Le fait de sponsoriser des athlètes pour qu'ils aillent au niveau, ou penser des produits plus durables et du coup avoir moins de budget pour sponsoriser ces athlètes. J'ai pas la réponse malheureusement ce soir.
J'aimerais juste compléter du coup pour te répondre. En fait, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Il faut juste que tu regardes, par exemple, si tu achètes sur Vinted, mais que le produit a fait plus de 2000 km pour arriver jusqu'à toi, ça aura nécessairement plus d'impact que si tu vas au Emmaüs local ou à la friperie qui a un sourcing qui est local. Par contre, si la friperie dont il s'agit achète en ballot je ne sais où en Europe et a aussi un impact majeur sur le déplacement des vêtements, ça va pouvoir être équivalent. Mais c'est plutôt ça qu'il va falloir regarder. Il n'y a pas de meilleure solution. Si c'est ton voisin à qui tu rachètes un t-shirt, c'est très bien. C'est même mieux que la friperie. Voilà, vous l'échangez. Même pas d'argent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense qu'il y avait une question aussi de surachat, en fait. C'est-à-dire, est-ce que... on achète ce dont on a besoin, surtout, et pas de suracheter même en seconde main. C'est un peu ça aussi, peut-être, le point commun un peu de toutes ces initiatives, c'est d'essayer d'avoir une consommation raisonnée, même si on est tous confrontés aux difficultés que ça pose.
C'est vrai qu'il y a des modèles qui évoluent, notamment les modèles économiques de location, même dans le textile, dans le sport, Decathlon s'y met, c'est génial, ils ont assez de data pour pouvoir le faire. Mais même dans le jean, enfin, je pense qu'il y a peut-être des sujets à faire évoluer et voilà, ça repense du coup toute la façon de consommer aussi, de se dire on loue ce qu'on utilise et même dans tout ce qui est vêtements. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de louer des vêtements des semaines, des mois, donc je trouve que c'est intéressant. C'est à voir comment évoluent ces plateformes, mais ces services peuvent être vraiment les services de demain.
Ouais, juste pour compléter, donner un exemple, effectivement, nous, on est en train de travailler, là, il est sous forme de proto, il est en test au porté, même, plus précisément, mais on a créé un jean femme enceinte, et en fait, justement, en général, quand t'es enceinte, c'est pas pour la vie, donc du coup, à un moment donné, ce jean, on en aura plus besoin, donc plutôt que de le laisser dans les placards ou de le refiler à une copine, machin, nanana, et on compte le proposer sous forme de location.
On a encore quelques minutes pour des questions. Bon, peut-être sur vos projets ou vos défis. Enfin, c'est comme des marques. Make 83 fonctionne très bien. Ça répond à des vrais besoins. Vos deux initiatives aussi répondent à des vraies demandes des consommateurs, en fait, aujourd'hui. Des consommateurs ou des intermédiaires, des industriels, des acteurs du secteur. Quels seraient les défis, là, pour vous? On parlait tout à l'heure de réglementation, peut-être d'aide, des aspects de communication.
Alors, des défis, on en a toujours, mais il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Le plus gros, là, c'est de surmonter, en fait, l'augmentation des coûts d'énergie. Parce que là, on s'est pris un bon truc dans la tête. Après, on n'est pas les seuls à y être confrontés, mais ça fait partie de notre activité et de notre usine de tissage. Donc là, c'est une grosse problématique. Donc, on est là en collectif, on sait qu'on est accompagné par tout ce qui est UIT, Unitex, etc., qui sont vraiment derrière nous et qui font du lobbying auprès du gouvernement pour que les entreprises puissent avoir des aides. Et sinon, côté plus positif, on a un gros défi aussi que 1083 porte, et le jean, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est qu'on veut valoriser en fait le savoir-faire. Notamment la couture, mais pas que, tous les métiers en fait qui sont inclus dans cette chaîne de production, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est peu connu. Je sais qu'à Romans, on peine à recruter des couturiers et couturières, alors que dans les Vosges, au contraire, ça se passe super bien. Donc voilà, on souhaite travailler, on a plein de projets en tête et on est dessus tous les jours avec Thomas pour justement pouvoir valoriser ces savoir-faire et réintroduire tous ces savoir-faire qu'aujourd'hui, on n'a plus ou qui sont méconnus. Et souvent, quand on fait visiter l'atelier, les élèves ils me disent « Ah, mais moi, je vais être styliste, je vais être modéliste. » Donc, on leur montre notre modéliste, ils rencontrent notre modéliste. Et voilà, ben un petit peu, ouais, en partie, enfin, ça fait partie de la formation, mais surtout quand on continue la visite et qu'on passe dans l'atelier de confection où toutes nos machines à coudre sont repeintes en rouge, et bien finalement, après, les gamins, ils ressortent et ils nous disent non, mais en fait, je vais réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Mais parce que c'est un métier méconnu, c'est un métier d'ouvrier, mais ouvrier au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on œuvre vraiment avec les mains, derrière encore la confection d'un vêtement. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des machines. Et moi, je suis assez fière de savoir que, ben, pour revenir à cette salopette, j'ai vu ma collègue modéliste la couper, enfin sortir le patron, la couper, et ma collègue après, qui est couturière, la coudre, et en fin d'après-midi, je l'avais. Et c'est juste énorme, en fait, de voir ça, quoi. Ouais.
Du coup, je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, je ne sais pas si tu peux offrir ça comme service à un acheteur qui vienne dans l'usine voir la confection de son jean qu'il va pouvoir repartir avec, ça serait incroyable. Franchement, je serais prêt à payer le prix pour ça, quoi. Non, mais c'est... non, mais avec le jean, nous, notre challenge, bon, il y en a plusieurs parce qu'on est, on se structure, on est jeune. Je pense déjà niveau réglementation. Moi, j'aime bien parler de la TVA parce qu'aujourd'hui, la TVA, c'est quand même un de nos sujets où on perd 20% de ce qui arrive dans nos poches. 20%, c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. Ça peut monter jusqu'à 10 000 euros sur certains mois. Donc oui, c'est énorme. Et c'est se dire, OK, pourquoi il y a de la TVA sur des produits qui ont déjà eu une TVA voilà, moi, je trouve ça fou. Oui, c'est de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait, acteurs de l'économie circulaire, d'aller collecter, d'aller revaloriser, donc ça, ouais, on doit le donner. Donc moi, j'aimerais bien, déjà en termes de réglementation, que les choses évoluent sur ça. Passer d'une TVA de 20 à 5,5 éventuellement. Ça serait génial déjà pour continuer, nous, acteurs de l'économie circulaire, à innover et avoir plus d'argent pour innover sur ces sujets-là. Et après, en termes de challenge, bon, nous, on a pris le choix pour l'instant de ne pas ouvrir notre capital parce qu'on a réussi à faire pour l'instant tout nous-mêmes. On se paye pas encore, mais on paye nos salariés, nos alternants, on paye nos espaces de stockage, donc... voilà, mais un challenge, ça serait vraiment de pouvoir accélérer, notamment sur la partie de recrutement des équipes. Et donc, c'est sur des sujets où l'ouverture du capital peut être amenée, notamment pour recruter plus de commerciaux qui puissent aller dans plus de magasins, dans plus de clubs, aller à la rencontre des acteurs du sport et proposer des services pour déployer toutes ces nouvelles activités pour elles. Et notamment aussi sur les sujets de seconde main, parce que... voilà, nous, en tant que to go du sport, on veut limiter le gaspillage, certes sur des produits neufs, mais aussi donner plus de durée de vie et allonger la durée de vie à des produits de seconde main. Donc il y aura aussi des bons jalons à mettre en place pour travailler sur tout ça.
Et pour nous, je l'ai déjà un peu dit, l'enjeu, c'est vraiment de trouver les personnes qui vont faire quelque chose des 360 000 mètres de textile qu'on met en lumière, quoi. Donc c'est pas une mince affaire. Et puis l'avantage aussi, tu parlais de l'énergie, c'est que les textiles sont déjà produits, donc il n'y a pas d'inflation sur ces textiles-là. Les prix ne bougent pas, contrairement au coton bio ou recyclé, voilà, qui explose un peu. Voilà, c'est voilà, c'est tout. On va vraiment trouver les pistes de solutions, quoi.
Et peut-être des liens à faire après cette table ronde entre vos.
Peut-être.
Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous pour vos questions. Et puis, on va faire 10 minutes, un quart d'heure de pause. On peut se retrouver dans un quart d'heure ici.